le projet de canal Seine Nord Europe doit relier Aubenchelobac près de Cambrai et Compiègne. Long de 107 km, il deviendrait le maillon central d'un réseau fluvial à grand gabarit entre l'Île-de-France et l'Europe du Nord. Avec près de 2500 hectares d'emprises agricoles, 35 millions de mètres cubes d'eau prélevés, 78 millions de mètres cubes de déblais prévus, pour un coût aujourd'hui réévalué à plus de 10 milliards d'euros, sa construction engage des travaux d'infrastructures pharaoniques. À ce titre, il est parfois qualifié de chantier du siècle. Promu pour désengorger le réseau routier, présenté comme un mode de transport de marchandises plus écologique, mis en avant comme une infrastructure créatrice d'emplois, la construction du canal est contestée pour son impact environnemental négatif et ses bénéfices surévalués. Pour ses opposants, il est un gouffre financier, un anachronisme environnemental et une menace pour les collectifs de travail existants. Il critique cette logique de croissance des flux marchands qui s'effectue au mépris des populations et des écosystèmes. Alors que les premiers chantiers ont commencé, le projet de canal ravive les débats sur la construction d'aménagements qualifiés par certains de grands projets inutiles et imposés. Du 9 au 12 juillet, un village militant éphémère s'est installé à Villers-aux-Tertres, entre Douai et Cambrai, pour protester contre la construction du canal. Une mobilisation d'envergure nationale de défense de la terre et du vivant, avec des tables rondes, une balade à vélo, des concerts et une manifestation à pied et sur l'eau. Louise, ingénieure, membre des collectifs organisateurs dont les soulèvements de la Seine et Mégacanal Non Merci, nous raconte l'organisation de ce week-end de résistance populaire. Elle remet en cause la pertinence du projet, elle évoque les alternatives possibles ainsi que l'état d'avancement de la construction du canal.
Les travaux, ils ont très peu commencé. Aujourd'hui, on estime qu'il y a 1% à peine des travaux qui ont été réalisés. Il n'y a pas encore quoi que ce soit de creusé pour le canal à proprement parler. On nous dit souvent que c'est trop tard, que pourquoi on répond maintenant. Il faut se rendre compte que c'est difficile de mobiliser. Ça prend énormément de temps, en fait, de comprendre un projet, de développer des arguments, de sensibiliser, de rencontrer des personnes, d'échanger sur ces sujets-là. Et par contre, ça fait 30 ans qu'il y a des personnes qui se battent contre ce projet. Aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui qu'on est plusieurs milliers, mais il y a 30 ans, nous, quand on rencontre les gens un peu sur tous les villages du tracé, il y en a 92, on nous dit « oui, moi, il y a 30 ans, j'étais tout seul ». Parce qu'en fait, il y a vraiment un enjeu d'apprendre collectivement à s'organiser. Il y a 30 ans, il y avait des personnes qui ponctuellement se battaient pour l'impact du canal chez eux, contre certaines formes du canal, etc., qui refusaient ce projet. Et comme il n'y a aucune instance vraiment démocratique qui permette de demander l'avis à tout le monde, ils n'étaient que quelques-uns à s'exprimer. Ils ont eu du mal, ils ont eu des retours de bâton parfois de l'avoir fait. Et voilà. Et on sait très bien que de plus en plus, il y a des cultures militantes qui se développent de plus en plus en France, notamment avec les soulèvements de la terre, de cultures militantes autour de la défense de la terre, en fait, tout simplement. Et c'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui. On rencontre plein de luttes qui ont fait des choses folles il y a pas mal d'années. Mais c'est peut-être qu'aujourd'hui, ces luttes se regroupent un peu plus et s'étendent dans des territoires qui ont perdu leur histoire, qui sont un peu détachés de leur histoire militante.
Et qu'est-ce qui fait qu'il y a un basculement entre justement des mobilisations peut-être isolées de personnes qui sont directement concernées par le projet du canal, un agriculteur qui se fait déplacer ses terres agricoles par exemple, et aujourd'hui des gens qui se sentent concernés même s'ils ne sont pas impactés peut-être dans leur vie quotidienne par le canal, parce qu'ici il y a des gens qui viennent de partout en France, je suppose.
Oui, physiquement, leurs terres ne sont pas impactées. Après, le réchauffement climatique, il nous concerne tous, hein, malheureusement. Notamment avec les vagues de canicule, on s'en rend bien compte que ça tape fort. Ici, ça fait plus d'un mois qu'on n'a pas eu une seule pluie, ou très faible. Ça commence à devenir très très grave pour les cultures et pour les niveaux des nappes qui nous abreuvent. Donc en fait tout le monde, et c'est le même cas, c'est la même chose dans le sud, etc. Et on sait que c'est dû aux énergies fossiles, que c'est dû à l'artificialisation des terres, au non-respect des, notamment du cycle de l'eau. Donc en fait, ça concerne tout le monde. C'est pas vrai de dire que ça concerne que les quelques personnes qui, pour lesquelles le canal passe dans leur village. Et mine de rien, pour organiser des rassemblements à plusieurs milliers de personnes, pour développer tout un argumentaire, pour porter des recours en justice, tout ça, ça demande énormément de temps. Donc ça veut dire qu'il faut avoir ce temps après son travail, après avoir fait en sorte de pouvoir manger, boire et avoir un toit sur la tête. Et il faut encore redoubler d'énergie pour travailler sur ces sujets-là, pour développer des mobilisations de nombre. Donc de toute façon, c'est très très difficile au niveau très local de présenter un rapport de force comme ça. Et donc c'est normal en fait qu'il y ait des personnes qui viennent d'un peu partout. Parce qu'on ne peut pas juste se dire que, de toute façon, voilà, chacun se débrouille chez soi. C'est une forme de solidarité face à des personnes qui ont beaucoup de moyens. Nous, on a beaucoup de monde et beaucoup d'énergie.
Tu parles de réchauffement climatique comme s'il y avait une implication directe entre le canal et des impacts climatiques. À l'inverse, les promoteurs du projet mettent en avant le fait que le canal soit un projet en faveur de la transition écologique. Vous n'avez pas l'air trop d'accord sur cette question.
Non, on n'est pas d'accord et on prétend même que eux sont conscients aussi que leur projet n'est pas en faveur de l'environnement parce que il y a plusieurs points sur lesquels ils affichent des informations erronées, alors que quand on lit dans les petites lignes, on voit que c'est clair de leur point chez eux aussi que ils ont les bonnes informations, mais c'est pas ça qu'ils mettent en avant. Typiquement, un exemple de ça, c'est qu'ils annoncent très souvent que le canal enlèverait 1 million de camions de l'autoroute A1. Bon, si on écoute juste ça comme ça, dans un spot publicitaire, en plus sur un journal officiel, on se dit, d'accord, aujourd'hui, il y a peut-être 5 millions de camions par an sur l'autoroute, demain, il y en aura 4 millions. Bon, c'est pas vrai, en fait, quand on lit dans les petites lignes. Leurs propres hypothèses à eux, c'est de dire que il va y avoir de toute façon une augmentation du fret parce qu'ils se placent dans une logique d'internationalisation et de fret exacerbé, enfin de transporter toujours plus, toujours plus, toujours plus. Transporter quoi ? Ça, on n'en parle pas, mais transporter toujours plus. Et donc, dans leurs estimations, en fait, le canal, il viendrait s'ajouter aux capacités du routier. Et donc, on a aujourd'hui 5 millions de camions sur l'autoroute A1, ils disent, demain, si le canal Seine-Nord Europe ne se fait pas, il y en aurait 12 millions, par exemple. Mais si le canal se fait, il n'y en aura que 11 millions. Donc ça, c'est déjà très malhonnête de leur part d'annoncer 1 million de camions en moins. Et on ne peut pas considérer un projet sans considérer aussi ses alternatives. Déjà, on peut remettre en cause l'utilité de transport de fret. Qu'est-ce qu'on veut transporter ? Pourquoi on veut le transporter ? Pourquoi on veut le transporter aussi massivement ? Jusqu'où ça va ? Est-ce qu'on est en train de faire plutôt de l'import de marchandises extérieures ou est-ce qu'on va exporter, nous, des marchandises ? Quels sont les rapports ? Tout ça, c'est des questions qui ne sont pas posées. Est-ce qu'on a besoin de transporter autant de marchandises ? Parce que le plus écologique, ça serait de réduire le volume de marchandises transportées sur des longues distances. Et après, si on se dit qu'on a envie de transporter plus de fret ou transporter ce qui est déjà transporté mais de manière décarbonée, la solution directe, c'est déjà le fret ferroviaire et le canal existant. Parce qu'il faut toujours rappeler qu'il y a déjà un canal qui réalise cette jonction fluviale qui passe de Compiègne à Aubin-Chelobac. Ça s'appelle le canal du Nord. Il est en fonction depuis les années 60. C'est le dernier canal construit et on est déjà en train de l'abandonner. C'est le dernier canal construit en France. Et on est déjà en train de considérer qu'il est trop vieux. Ça fait des années qu'il est très peu entretenu par VNF. Et donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut déjà maintenir l'existant, faire en sorte d'utiliser plus l'existant, d'utiliser plus le canal du Nord qui est sous-utilisé, et surtout d'utiliser plus le fret ferroviaire qui, en termes d'émissions carbone par tonne de marchandises transportées, est le mode de transport de fret le plus écologique.
Et ça ferait économiser 10 milliards d'euros ?
Ça coûterait moins que 10 milliards d'euros. En tout cas, bon, maintenant qu'on a pris des années de retard à force d'abandonner complètement le fret ferroviaire et le réseau de canaux existants de VNF, de voies navigables de France, ça coûtera probablement plus cher que ça ne l'aurait été si on les avait entretenus toutes ces années. Mais ça coûte moins que 10 milliards de remettre tout en état. Et transporter des conteneurs, ça fonctionne vachement mieux sur des rails, quoi.
Qu'est-ce qui a commencé, où on en est, et qu'est-ce qui se planifie plutôt à court terme, en fait, en termes de chantier ?
Pour l'instant, ce qui a commencé déjà, c'est les destructions d'arbres et de milieux naturels, par conséquent. Ils appellent ça de la libération d'emprise. Globalement, ils ont coupé énormément d'arbres, notamment à Montmac. Ici aussi, à Oisy-le-Verger, ils ont coupé un bois qui avait été planté il y a quelques dizaines d'années par les habitants du coin. Voilà, ils ont commencé à couper des arbres. Auprès de Montmac, ils ont aussi modifié le lit de la rivière Oise. C'est-à-dire qu'elle faisait des méandres dans son lit, ce qui est quelque chose de très bien pour limiter les inondations, qui est quelque chose de très bien pour la vie dans la rivière, et ils ont réduit les méandres, c'est quasiment une ligne droite maintenant, donc ça n'a plus rien à voir avec une rivière naturelle. Donc il y a des destructions environnementales, et après en termes de travaux, ils ont commencé la construction d'un pont pour passer l'autoroute, enfin pour que l'autoroute passe au-dessus du canal, près de Ittres. Ils ont à Montmac, ils ont commencé les travaux de l'écluse. Ils ont aussi fait des terrassements à Noyon et ils ont commencé à faire des terrassements à Oisy-le-Verger. Mais en fait, il faut bien se rendre compte, effectivement, à chaque fois, si on va sur un chantier, ça paraît impressionnant, on a l'impression qu'on a beaucoup avancé. Il faut se rendre compte que ces chantiers, ils vont durer des années, au moins une dizaine d'années, que pour l'instant, on estime qu'il y a seulement 1% des travaux qui sont faits. Et que les chantiers qu'il faudrait pour mettre à bien, arriver au bout du chantier, ce seraient des chantiers encore plus gros, encore plus immenses, encore plus pharaoniques que ceux qu'on voit aujourd'hui. Ce projet, s'il voit le jour, et on va tout faire pour pas, il défigurerait complètement le paysage des Hauts-de-France.
C'est un week-end de mobilisation citoyenne pour interpeller sur les différents impacts que peut avoir le canal. L'objectif serait de stopper en fait la construction du canal. Cet objectif-là, dans quelle mesure il est réalisable ?
Ce qui est difficile à croire déjà, c'est que on puisse arriver à commencer des chantiers et à engager plusieurs centaines de millions d'euros quand on n'a pas pris le temps de demander l'avis à la population. Donc maintenant qu'ils ne l'ont pas fait, nous on prend le travail de leur rappeler qu'ils ne l'ont pas fait et de créer des lieux de débat, créer des lieux d'apprentissage de ce que c'est vraiment le projet. C'est nous qui nous chargeons bénévolement, évidemment, d'informer la population sur ce qui pourrait leur arriver et de rencontrer toute la population, de comprendre les enjeux, etc., et de porter notre voix qui nous opposons. Aujourd'hui, il y a vraiment très peu du canal qui a été construit, et seulement 5% à peu près du montant total des travaux aujourd'hui, donc avant plusieurs années de travaux et d'augmentation des coûts. Pour l'instant, on est à 5% du coût estimé qui ont été vraiment dépensés. Ils ont engagé 600 millions d'euros. Bon, avoir fait une erreur à 600 millions d'euros, ça coûte cher. Mais si on comprend maintenant que c'est une erreur, ça nous évite de faire une erreur à plus de 10 milliards d'euros.
Qu'est-ce qui permettrait de stopper ? Une décision de Xavier Bertrand ? L'État peut avoir un rôle à jouer ? Ce genre de mobilisation citoyenne ? D'autres options ?
Bah, ce genre de mobilisation citoyenne, ça nous permet de mettre une pression populaire sur les personnes concernées. Ça ne devrait pas se passer comme ça. Ça devrait être des débats fournis, ça devrait être de la démocratie régulière. Malheureusement, ce projet, il a été décidé par une poignée de personnes, dont la plupart n'ont jamais été élues par un vote populaire. Je pense par exemple au Premier ministre de 3 gouvernements successifs et au ministre de l'écologie qui ont signé des déclarations d'utilité publique. Ces personnes n'ont pas été élues par les Français. Je pense notamment au préfet qui est en mesure de délivrer toutes les autorisations qui n'ont pas été élues par les habitants du territoire. Aujourd'hui, c'est M. Xavier Bertrand qui porte ce projet. Bon, bah, nous, on lui fait bien comprendre, d'autant plus qu'il est candidat à la présidence de la République, que s'il envisage de gérer la France comme il est en train de gérer l'économie de la région Hauts-de-France, c'est pas la peine. Et voilà, évidemment, c'est un rapport de force. On aimerait ne pas avoir à fonctionner par des rapports de force. Si on avait une démocratie fonctionnelle, ça ne serait pas le cas. Sauf que, en l'occurrence, c'est la seule façon de le faire.
C'est vrai que c'est un village qui est pour s'opposer au canal Seine Nord Europe. Mais il y a une conférence sur la question des data centers en région Hauts-de-France. Là-bas, il y a des autocollants et un collectif Stop Rockwool. Donc, c'est la fabrication des laines minérales qui fabriquent des isolants. D'autres encore de ce type de projet industriel. Qu'est-ce qui regroupe tout ça en fait ?
Tous ces projets, on a essayé de faire valoir, enfin de valoriser des luttes qui sont dans les Hauts-de-France parce que on s'en prend plein la tête en fait dans les Hauts-de-France et qu'il faut comprendre la logique qui est toujours la même en fait de réalisation de ces projets, de comment ils sont imposés. Il faut comprendre cette logique pour être plus efficace nous aussi dans la réponse et pour penser un système qui fonctionnerait mieux. Parce que au bout d'un moment, on peut se battre contre un projet, mais si on voit qu'il y en a encore 100 autour, bah on comprend bien qu'il faut changer les règles du jeu de base, parce que nous, sinon, on ne pourra pas passer notre vie à lutter en permanence contre des projets qui ont notamment comme point commun de ne considérer en aucun cas les limites planétaires. La réalité physique de la Terre n'est pas prise en compte sur les projets qu'on fait. Et autour de la question du canal Seine Nord Europe, il y a un autre projet notamment. Alors effectivement, il y a des projets de data center, de centres de données, et il y a aussi un projet d'usine d'engrais azoté, Fertigy, à Langvoisin qui crie, qui fait partie d'un bon nombre de projets qui sont passés parmi ce qu'on appelle les projets Notre-Dame, qui sont Emmanuel Macron qui a décidé qu'il y aurait une centaine, je crois, de projets ou plus en France sur lesquels il faut mettre un coup d'accélérateur parce que c'est une forme de déclaration d'utilité publique, on va dire, et que pour cela, vu qu'on a besoin d'aller vite et que c'est hyper important de les faire, on s'en fiche du droit environnemental, on saute les étapes de contrôle et on les fait. Donc, sachant que déjà, quand il y a les normes environnementales, ça prend du temps, mais ils peuvent quand même réussir à faire des projets qui n'ont absolument aucun sens. Bah, alors là, en plus, on est parti sur un autre niveau. Et il y a plusieurs centres de données, des data centers dans les Hauts-de-France, qui sont aussi dans la liste de ces projets, et donc contre lesquels il est très très urgent de se battre, mais c'est pas facile.